Merci beaucoup. Madame la pasteur, madame, mesdames, messieurs, je suis évidemment très, très honoré et je dois dire très surpris d'être ici parmi vous dans ces conditions, d'être annoncé, il n'y a pas que moi, mais d'être aussi annoncé par des cloches, ce qui me surprend, c'est bien la première fois. Et je suis très sensible à la musique. Il se trouve que ma maman, mais c'est une affaire très personnelle, était pianiste, concertiste, professionnelle. Et je trouve que la voix humaine est le premier son le plus extraordinaire qui soit. Et l'orgue est véritablement le deuxième, si bien que je ne peux qu'être comblé ici par les psaumes et par l'orgue. C'est peut-être le seul élément d'ailleurs qui serait capable aujourd'hui de me faire pleurer, la seule émotion qui serait capable de me faire pleurer. Mais rassurez-vous, je ne vais pas pleurer tout de suite, peut-être tout à l'heure. Je voudrais m'excuser d'abord aussi de rester ainsi assis. Et si je reste assis, ce n'est pas parce que je suis de mauvaise humeur, ce n'est pas parce que je fais ma mauvaise tête, mais c'est parce que je tiens mal debout, si bien que je gâcherais les psaumes en tenant à moitié de travers. Enfin voilà, et dire qu'on s'est mis debout il y a 10 millions d'années, je ne suis pas sûr que ce soit une réussite, en tout cas en ce qui me concerne. Alors ce que je vais vous raconter, ce que je vais essayer de vous raconter, le plus clairement possible, le plus simplement possible, c'est tout. Vous voyez que c'est modeste. Absolument tout, ça englobe tout. C'est-à-dire toute l'histoire de ce que l'on sait, de l'univers et de la terre et de la vie et de l'homme. Ça commence il y a 14 milliards d'années. On ne connaît pas l'origine de l'univers. Mais on sait, on aperçoit l'univers à partir de 14 milliards d'années. Souvenez-vous le nombre de zéros, hein, 14 milliards d'années. Et ce qui est tout de suite extrêmement intéressant, c'est que dès qu'on perçoit l'univers, dès qu'on perçoit la matière, on voit tout de suite que cette matière change. Elle change immédiatement. Et elle change curieusement du plus simple au plus compliqué. Et du mieux au mieux organisé, donc elle change dans un sens, et si elle a un sens, elle a du sens. Vous voyez que j'ai préparé mes formules pour un pareil lieu. C'est un constat. C'est un constat. Bien sûr que j'ai beaucoup d'amis astrophysiciens, astronomes, et en particulier Hubert Reeves, que tout le monde connaît, Hubert Reeves, le Canadien. Et Hubert Reeves me dit, au début, il devait y avoir des sortes de grandes structures, des grandes structures qui se sont très vite divisées en structures moins grandes, qui seraient les galaxies. Et les galaxies sont les berceaux, les origines des étoiles. Donc vous voyez qu'on se rapproche de nous, puisque le Soleil, bien sûr, est une étoile. Et notre système stellaire, notre système solaire, apparaît, lui, il y a 4 milliards 600 millions d'années. Vous voyez qu'on va vite. 4 milliards 600 millions d'années. Un peu plus de 4 milliards et demi, pas tout à fait 5 milliards. Et ce système solaire, bien sûr, ce système stellaire, il va autour de son étoile agglutiner, agglomérer un certain nombre d'objets. Les astronomes appellent ainsi les planètes, les comètes, etc. Et parmi ces objets, notre Terre, qui est à 150 millions de kilomètres du Soleil, et qui se trouvant à 150 millions de kilomètres du Soleil, étant donné la masse du Soleil et la masse de la Terre, a la chance d'avoir conservé son atmosphère, son gaz autour d'elle, et son eau liquide. Et évidemment, c'est ce qui a fait l'origine de la vie. Mais tout ça est quand même très étonnant, très étonnant. Toute cette histoire est très surprenante. Et toute cette histoire, la science, que fait la science? La science a pour objet de décrire ce qu'elle croit comprendre et de tenter d'interpréter la manière dont tout ceci fonctionne. Mais c'est tout. Pourquoi l'univers? Pourquoi tant de milliards d'années? Où va l'univers? Tout ça, on n'a pas de réponse. Pourquoi les étoiles? Pourquoi la Terre autour des étoiles? Pourquoi la vie sur la Terre? Et peut-être dans d'autres objets, mais on n'en sait rien. Et pourquoi aussi les étoiles, comme les êtres vivants, curieusement, naissent, vivent et meurent? C'est étrange tout ça. Enfin, c'est étrange en permanence. C'est merveilleux et étrange en permanence. Et la science, bien sûr, enfin, vous le savez fort bien, a de la peine à se bloquer devant ça, mais elle est bien obligée de le faire. Et en ce qui concerne le Soleil, pour votre information, il a une vie, notre Soleil, notre étoile, elle a probablement une vie d'une dizaine de milliards d'années, ce qui veut dire qu'elle en a déjà passé 5 milliards, comme je viens de vous le dire. Donc il lui reste 5 milliards d'années à vivre, ce qui est une sécurité dans une certaine mesure pour la Terre. C'est pas le lieu de rire de tout, mais je peux quand même vous raconter une histoire parce que j'adore ça. Mais un jour, dans une assemblée où j'ai dit « il nous reste 5 milliards d'années, il reste 5 milliards d'années au Soleil », après quoi il implose, et un monsieur d'une petite quarantaine d'années, assez jeune, m'a dit « vous avez dit milliards ou millions ?» J'ai dit « milliards ». « Ah, ouf !» me dit-il. Donc j'ai au moins rassuré quelqu'un ce jour-là. Donc nous voilà sur la Terre, sur notre planète, avec aussi ce curieux phénomène de la vie, c'est-à-dire que dans le même sens que ce qui s'est passé auparavant, la matière se complique, et elle se complique en ce sens que au fond de l'eau sur la Terre, des molécules vont se grouper, s'associer et fabriquer des éléments qui sont soit des éléments extrêmement simples sans noyau, et puis ensuite des éléments un petit peu plus compliqués, toujours sans noyau, et puis des éléments un petit peu plus compliqués avec noyau. Ça s'appelle des acaryotes, et ce sont les virus, on en parle beaucoup aujourd'hui. Ça s'appelle les prokaryotes, ce sont les bactéries ou les archées. Et ça s'appelle les eucaryotes, ce sont tous les restes d'êtres vivants, tous les autres êtres vivants. Ce qui veut dire, en y réfléchissant tout de suite, que les virus, qui sont aujourd'hui parasites, ne l'étaient peut-être pas au départ, et s'ils l'ont été très vite, ils l'ont été de bactéries, mais ça signifie que les virus comme les bactéries ont des ADN, qu'on appelle peut-être ARN à ce moment-là, qui ne sont pas aussi élaborés que l'ADN, mais ça veut dire que comme nous avons nous-mêmes un acide désoxyribonucléique pour assurer notre hérédité, nous sommes de la même famille, nous sommes du même ensemble. Je trouve que sous ce toit, il est agréable d'une certaine mesure de faire remarquer que les virus sont de la famille et ça nous rapproche un peu, ça donne une certaine fraternité à ces personnages qui nous embêtent mais qui après tout vivent leur vie et qui en plus... Lorsqu'il se développe et accélère leur contagiosité, progresse. Donc à partir du moment où on a un variant qui est plus contagieux, je l'ai dit il y a quelques jours au ministère, c'est pas la peine de chercher à fermer les frontières, bien sûr qu'il sera dominant, bien sûr. C'est la loi de l'évolution par excellence. Alors on prend cette grande histoire de la vie qui est une histoire superbe et surprenante, d'autant plus surprenante que l'on dit, que l'on pense, et c'est en partie vrai, c'est sans doute plus compliqué que cela, que tout se fait de manière aléatoire. Je veux dire que le paléontologue que je suis, il a le recul de quelques milliards d'années. La vie apparaît autour de 4 milliards d'années. Nos petits virus ont 4 milliards d'années. Donc la vie apparaît il y a 4 milliards d'années, et le paléontologue, 4 milliards d'années après, il voit l'histoire comme une évolution. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'évolution. Mais en fait, à chaque moment, les êtres vivants se trouvent en équilibre dans leur milieu. Et puis si le milieu change, or le milieu ne cesse de changer, l'être vivant va être en déséquilibre et il va rattraper cet équilibre en s'adaptant au nouveau milieu. Et cette adaptation se fait encore une fois de manière aléatoire, apparemment de manière aléatoire. C'est-à-dire qu'un certain nombre de mutations apparaissent qui sont aléatoires. Et parmi ces mutations, une, par hasard, conviendra mieux au milieu nouveau que les autres, et c'est celle-là qui, petit à petit, prévaudra. C'est très surprenant. Enfin, moi, je suis surpris en permanence. Et ceci est vrai jusqu'à aujourd'hui. Ceci est vrai jusqu'à aujourd'hui. On va en parler tout à l'heure. Donc, nous voilà partis dans l'histoire de la vie, avec 3 milliards 500 millions d'années de vie dans l'eau. 3 milliards 500 millions d'années sur 4 milliards d'années d'histoire de la vie. Il y a 3 milliards 500 millions d'années d'histoire de la vie dans l'eau, avec absolument personne sur les continents. Pas un chat, façon de parler, pas un virus sur la Terre. C'est quand même assez surprenant aussi, me semble-t-il. Et à partir de 500 millions d'années, on dit que la vie sort de l'eau. Alors c'est une manière de parler aussi, parce qu'en fait c'est l'eau qui s'en va. Donc évidemment, quand on a l'habitude de vivre dans l'eau et qu'il n'y a plus d'eau, il faut se débrouiller pour vivre dans l'air. Et c'est ce qui s'est passé il y a 500 millions d'années. Et à partir de ce moment-là, la vie se poursuit, à la fois dans l'eau, bien sûr, où elle est toujours là, et puis aussi dans l'air, puisque nous sommes là. Et cette vie va, encore une fois, se poursuivre, à la fois de cette manière aléatoire, et comme je l'ai dit tout à fait au début, en parlant de la matière, à la fois dans le sens d'une complication croissante. Pas pour tout le monde. Il y a des bêtes, il y a des êtres beaucoup plus stables que d'autres, mais dans l'ensemble, les êtres en tout cas qui bougent, les êtres qui évoluent, les êtres qui changent, les êtres qui se transforment vers plus compliqués, sauf les parasites, encore les virus. Donc nous voilà sur la Terre, puisque nous allons vers l'homme et l'âme, nous voilà sur la Terre avec toute une histoire de végétaux d'abord, de vertébrés, d'invertébrés ensuite, de vertébrés enfin. Et les vertébrés nous intéressent puisque nous allons vers nous, c'est le cas de le dire. Et cette histoire-là passe par des quantités d'étapes, évidemment, que je ne vais pas vous raconter. Mais certaines étapes sont amusantes quand même à s'imaginer. Nous sommes des mammifères. Or, les mammifères ont été ovipares pendant plus de 100 millions d'années. Alors, les chiffres des années, on n'en a pas peur. Quand même, nos grands-parents ont pondu des œufs pendant 100 millions d'années, avant de devenir vivipare, avant de porter l'enfant dans un placenta. Et c'est évidemment amusant, enfin pour moi en tout cas, à imaginer, avec à chaque fois quand même une sorte de progression, puisqu'il est évident que l'enfant dans le ventre de sa maman sera plus protégé qu'il ne l'est dans l'œuf, qui forcément, même s'il est couvé, est abandonné de temps en temps. Donc, vous voyez, tout ça est quand même, dans un sens intéressant, dans un sens agréable, de manière aléatoire, apparemment. Et donc, je continue, et parmi ces mammifères que l'on dit placentaires, apparaissent un certain nombre de groupes, bien sûr, dont celui des primates. Les primates, nous sommes des primates. Nous sommes des vertébrés, nous sommes des êtres vivants, nous sommes des vertébrés, nous sommes des mammifères. Nous sommes des mammifères placentaires, nous sommes aussi des primates. Et ces primates regroupent tous les singes, les grands singes, les petits singes et les humains. Et tout ceci dans le même sac, dans le même paquet, si je puis dire. Ce qui veut dire d'ailleurs tout de suite, puisque les humains n'apparaissent qu'il y a quelques millions d'années, que nous descendons des singes. Ne nous voilons pas la face, bien sûr que nous descendons des singes. Il y a beaucoup d'auteurs, de collègues sans doute, qui n'osent pas aller jusqu'à ce niveau-là et qui parlent de primates. Alors nous descendons de primates, c'est vrai, mais comme les primates ce sont les singes, vraiment nous descendons des singes. Et alors, ce n'est pas réducteur. Si c'était réducteur, je m'arrêterais tout de suite. L'histoire se poursuit avec ces primates qui s'adaptent, toujours de cette manière aléatoire, qui s'adaptent à des changements de milieu. Et les changements de milieu, en l'occurrence, c'est l'apparition de plantes à fleurs. Ça aussi, quand on n'a pas, forcément, quand on ne baigne pas dans le temps, quand on n'est pas toute son existence plongée dans ces longues durées, on ne prend pas conscience du fait que les fleurs que l'on trouve si belles, à juste raison, si colorées, etc., ne sont apparues qu'autour de 100 millions d'années. Autour de 100 millions d'années. Avant, il n'y avait pas de fleurs. Quel monde! Et donc, à partir de ce moment-là, les primates s'intéressent à ce monde-là, qui, en l'occurrence, est un monde arboré. Ce sont non seulement des plantes à fleurs, mais des arbres à fleurs, tout simplement parce que les arbres à fleurs vont devenir des arbres à fruits et que les primates sont frugivores. Ils vont se mettre, au lieu de manger, de ne manger que des insectes, que de n'être qu'insectivores, ils vont devenir insectivores et frugivores. Aujourd'hui, on mange moins d'insectes et plus de fruits, mais peut-être que l'avenir nous amènera à d'autres types de consommation si on écoute l'actualité. Pourquoi pas? En tout cas, nous voilà avec des primates qui, parce qu'ils s'adaptent au grimper et parce qu'ils s'adaptent à la consommation des fruits, se transforment toujours de manière aléatoire dans le sens de ces adaptations. Alors, voyez vous-même vos mains. Vous voyez que vous avez des ongles, et c'est à ce moment-là, donc il y a une cinquantaine de millions d'années, peut-être un petit peu plus, qu'apparaissent les ongles, parce qu'avec les ongles, on grimpe mieux aux arbres qu'avec des griffes. Alors encore une petite histoire, quand je raconte ça à des enfants, je leur dis, regardez bien, si certains ont des griffes, venez me voir, ça m'intéresse. Et il y a forcément à la récréation quelques-uns qui viennent en regardant. Regardez, monsieur, je crois que j'ai encore une griffe. En tout cas, ceci remonte à une cinquantaine de millions d'années. Et notre fameuse pince, notre fameuse prise, notre fameuse opposabilité du pouce et des autres doigts, qui existait d'ailleurs aussi au pied, ce sont en fait des adaptations aussi au grimper. Et ce sont des adaptations que l'on avait imaginées être typiquement humaines. En fait, elles sont typiquement primates, mais bien sûr que l'on en bénéficie aujourd'hui. Alors, je continue très vite cette histoire, l'histoire des singes, donc des grands singes, des petits singes. Et on arrive à une époque importante qui est celle de 10 millions d'années. Pourquoi elle est importante? Parce qu'il y a 10 millions d'années, apparaissent probablement des grands singes, je dis bien, dont on a une idée du portrait robot, dont on a quelques éléments peut-être, mais on n'en est pas sûr, mais qui semblent bien avoir été les ancêtres communs des chimpanzés et de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a 10 millions d'années, en Afrique tropicale, tous les primates sont d'origine tropicale. Certains ensuite se sont adaptés à d'autres milieux, mais tous les primates à l'origine sont tropicaux. Et il se trouve que c'est sous les tropiques d'Afrique que, pour des raisons de circonstances, ce n'est pas du tout un choix, pour des raisons de circonstances, apparaissent là des êtres qui vont devenir les ancêtres communs, grand-papa, grand-maman, des chimpanzés et de nous-mêmes. Ce qui signifie bien sûr que les chimpanzés et nous-mêmes sommes très proches les uns des autres, très très proches les uns des autres. On le savait par l'anatomie, on le savait par la physiologie, on le savait par l'éthologie, on le sait aujourd'hui par la génétique, par le décryptage de l'ADN, ça ne fait aucun doute. Et à partir de ce moment-là, se passe une sorte de grand V, non pas de la victoire, mais de grande division, avec, disons, pour être simple, deux grandes branches. Une branche qui va de ses grands-parents communs, des pré-chimpanzés aux chimpanzés actuels, avec une adaptation au milieu couvert, au milieu de forêt ou du milieu de savane arborée. Et puis de l'autre côté, notre histoire qui cette fois a 10 millions d'années aussi, mais qui est une histoire beaucoup plus de proximité, on peut dire. Et cette autre branche, elle est donc composée aussi, de même qu'il y a des pré-chimpanzés et chimpanzés d'un côté, de pré-humains et d'humains. Et ces pré-humains et humains, on les connaît pas mal en ce sens que ce sont des êtres qui ont vécu dans des milieux de savane, dans des milieux de savane arborée, dans des milieux de forêt, mais de forêt claire, avec suffisamment de sédiments, dans des régions où les sédiments se sont suffisamment conservés, pour qu'on en ait retrouvé beaucoup. C'est-à-dire qu'on connaît bien cette histoire pré-humaine-humaine, sur 10 millions d'années, les 10 derniers millions d'années. Et ces 10 derniers millions d'années passent par toute une période préhumaine, toute une époque préhumaine, longue au moins 7 millions d'années. Elle se poursuit d'ailleurs au-delà. Et là, on a affaire pour la première fois à ces préhumains, quand même, ce sont des parents très proches cette fois, à des préhumains qui se mettent debout. Qui se mettent debout, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas sûr que ce soit très habile, qui se sont mis debout et qui ont conservé néanmoins leur aptitude au grimper. Alors moi, malheureusement, non seulement je ne marche plus, mais je ne grimpe plus non plus. Et ces gens-là, entre 10 millions d'années et 3 millions d'années, ont continué à grimper. La petite Lucie que l'on associe toujours à ma personne, ce qui est à la fois charmant et agaçant, puisqu'on a l'impression que j'ai rien fait avant et que j'ai rien fait après. Quand même, je pourrais vous dire que j'ai fait quelques petites choses. Ces gens-là continuent à grimper de manière active et il n'empêche que qu'ils s'essayent, mais toujours de manière aléatoire, qu'ils s'essayent à la station debout, c'est-à-dire à la bipédie. Et c'est très intéressant, parce que c'est tout à fait caractéristique de tout ce qui se passe dans l'évolution, avec des essais, des ratés, des essais à nouveau, et puis finalement des succès, des adoptions en tout cas, et d'où l'évolution. Et les différents préhumains que l'on découvre sont des préhumains qui sont tous debout, qui ont tous fait l'effort de se mettre sur leurs pattes derrière, mais qui ont des bipédies différentes, qui se sont essayés à différentes bipédies jusqu'à se stabiliser vers la nôtre aujourd'hui, qui est exclusive, c'est-à-dire qu'on a une bipédie qui a des membres inférieurs extrêmement tendus, et des membres supérieurs qui pendouillent, alors que ces préhumains-là ont au contraire des membres inférieurs un peu lâches parce qu'ils continuent à grimper, et des membres supérieurs très, très solides parce qu'ils s'accrochent aux branches. Enfin, peu importe. Mais c'est évidemment un grand changement. Et sur le plan anatomique, c'est celui que je vous décris, sur le plan anatomique, comme vous pouvez l'imaginer, se mettre debout change beaucoup de choses. Par rapport à imaginer, je ne sais pas moi, un petit chien si vous en avez, ou un petit chat ou je ne sais quoi, voyez son allure et ses quatre pattes. Imaginez-le debout, la tête ne correspond plus, la tête n'est plus du tout dans l'axe qui convient, donc il y a forcément une rotation de la tête qui se met différemment sur la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, pour qu'elle assure la station debout, suit forcément quelques courbes, quatre courbes en fait, qui lui assurent son équilibre. Le bassin est un bassin qui devient un bassin en pression, parce que votre petit chien, votre petit chat a un bassin qui ne porte rien. Nous, debout, je vous ai vu lors des psaumes, on a quand même un bassin qui porte tous les organes, ce qui n'est quand même pas rien. Donc ce bassin, c'est un bassin en pression, c'est un bassin qui est un petit peu écrasé, beaucoup plus large et beaucoup plus court en hauteur, ce qui complique d'ailleurs la parturition, ce qui complique l'accouchement. Ce que l'on sait bien, c'est que la femme accouche avec, et la pré-femme accouche avec plus de difficulté, Lucie elle-même, en tout cas de manière différente de tous les primates qui ont précédé. Et puis les membres inférieurs, bien sûr, s'allongent, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, avec cet allongement qui assure une bipédie meilleure, alors que les membres supérieurs se raccourcissent. Pour dans les yeux, enfin c'est difficile d'imaginer ça, mais quand vous êtes plongé dans ce monde du vivant, lorsque vous êtes plongé dans ce monde des vertébrés, et en particulier quand vous vivez en brousse, comme ça m'est arrivé pendant bien des dizaines d'années, vous imaginez le changement d'attitude de ces primates et l'apparition des préhumains. Pour les yeux d'une girafe ou d'un éléphant, ça devait être très étrange. On devait être un petit peu ridicule, tout debout avec des membres inférieurs qui n'en finissent pas. Vous me direz que la girafe est aussi à ce niveau-là. Mais des membres supérieurs qui pendouillent, c'est vraiment, je n'arrive pas à me mettre dans l'idée que ça puisse être esthétique. Mais après tout, c'est fonction du monde dans lequel on se trouve. Et donc tout ceci nous mène autour de 3 millions d'années, et à 3 millions d'années se passe une chose tout à fait dans l'ordre de ce qui s'est passé auparavant, c'est-à-dire un changement climatique, et ce changement climatique va faire que les préhumains vont se faire humains, et les préhumains vont se faire humains toujours de manière aléatoire. On en est toujours au même point, au même fonctionnement, au même mécanisme, vont s'adapter à un changement climatique qui est une sécheresse, et ils vont s'adapter par un changement des voies respiratoires supérieures, parce que dans un milieu sec on respire différemment que dans un milieu humide, avec un changement de denture, parce que avec moins de végétaux on se met à manger de la viande, 3 millions d'années, et puis un changement de développement cérébral, parce qu'il faut que le cerveau gère tout ça, et à l'occurrence, comme le bonhomme reste de petite taille, comme il reste de petite taille, il faut qu'il ait une parade, une manière de se défendre, puisqu'il y a toujours cette obsession de la vie, de la survie, de la part de phénomène de l'évolution. Et ce cerveau va être sélectionné pour trouver des astuces, peut-être, pour échapper à la dent du prédateur. Vous savez, c'est toujours la survie, la survie, la survie. Donc la prédation, on l'évite pour parvenir à survivre, pour que l'espèce demeure, pour que l'individu demeure. Et ce cerveau, à l'origine, je ne dis pas qu'il est fait pour, parce que ce serait une mauvaise manière de m'exprimer, mais enfin, sa complexité est quand même une sélection pour trouver des astuces pour ne pas se faire croquer. Et en l'occurrence, curieusement, vont se passer, comme souvent dans l'évolution, non seulement des développements dans le sens normal, mais des développements un peu pirates. C'est-à-dire que le changement des voies respiratoires supérieures va entraîner de manière tout à fait anormale, tout à fait pirate, le développement du langage articulé et le développement du cerveau qui a une destination que je viens de vous indiquer, elle va passer probablement un seuil de complexité qui va faire que le cerveau va tout d'un coup réfléchir à autre chose, il va tout d'un coup savoir qu'il sait, c'est-à-dire anticiper, c'est-à-dire avoir tout à fait une autre attitude, une autre réflexion, même chose, hein, la réflexion comme dans un miroir, et cette réflexion va l'amener à penser à beaucoup de choses, y compris à la mort. Alors c'est là que qu'arrive, à mon avis, l'âme. Alors je ne suis pas philosophe du tout, je ne suis que scientifique. Donc j'ai fait mon petit mélange à moi, ma petite réflexion à moi. Et que se passe-t-il tout au long de ces 4 milliards d'années d'évolution de la vie? Que se passe-t-il tout d'un coup à partir d'un certain moment? Ben, je dirais que tout à fait au début, il y a une sorte de paradoxe que je vous ai déjà un petit peu indiqué lors du développement de la matière, avec une matière qui est de plus en plus compliquée, mais de mieux en mieux organisée. Et ça vient jusqu'à aujourd'hui. Et puis à partir de non plus la matière inerte, mais la matière vivante, on a une matière qui est de plus en plus diversifiée, puisque la diversité biologique, la biodiversité, va se faire en fonction du changement d'environnement, on l'a dit. Donc de plus en plus diversifiée, mais de mieux en mieux contrôlée, avec ce fichu ADN étrange. On va avoir une hérédité obligatoire, une génétique obligatoire. Un homme et une femme ne feront pas un petit éléphant, quoi. Ça me paraît assez clair. Et puis à partir de ces 3 millions d'années, ou quelque chose de ce genre, on passe d'une matière pensante, une matière vivante, à une matière pensante. Donc matière inerte, un premier paradoxe, matière vivante, un deuxième paradoxe, et puis matière pensante. Et ce nouveau paradoxe, c'est sans doute la liberté, mais la responsabilité. Et ça, c'est important à dire aussi sous ce toit, parce que ceci est souvent oublié. Je veux dire que la liberté, ça ne devrait pas aller en dehors de la responsabilité. Ça devrait presque être le même mot. Et comme nous sommes libres désormais, c'est nous qui portons cette liberté, et la responsabilité, on l'oublie avec beaucoup plus de facilité, bien sûr. Alors, cet être, à partir de 3 millions d'années ou quelque chose de ce genre, il se différencie de tout le reste. À chaque fois, il y a des différenciations, hein, bien sûr. Mais celui-là, il se différencie aussi, et il se différencie en se composant peut-être à ce moment-là, je reviens, à partir de 3 millions d'années, en trois parties, le corps, l'esprit, l'âme. Vous voyez que pour un scientifique, je vais peut-être loin, mais je crois véritablement à cette sorte de division en trois. Et je chargerai volontiers l'âme de la partie, de la facette religieuse. Je crois que l'homme religieux et le premier homme sont les mêmes. Je chargerai volontiers l'homme, l'âme, de ce caractère très particulier de l'humanité qui a la compassion. La compassion, c'est quand même très extraordinaire. Même si elle existe un peu dans le monde animal, il faut savoir que cette progression vers nous, ce n'est pas une limite nette, c'est probablement progressif. Thayer de Chardin disait de manière très jolie, très poétique, l'homme est entré sans bruit. L'homme est entré sans bruit. C'est joli. Et c'est un petit peu ça aussi. Et donc, je chargerai cette âme de la compassion. Et cette compassion, sur le plan du terrain, le terrain qui forcément est ma matière première, on le voit apparaître très très vite. Dès 1 800 000 ans, nous on a des chiffres hein, forcément, 1 800 000 ans, on trouve des humains qui ont eu des problèmes dentaires au point que leurs dents ont disparu très très vite, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus été capables de se nourrir eux-mêmes, il a fallu les nourrir de bouillie ou de soupe ou de je ne sais quoi. Et ces gens-là, par la manière dont l'os s'est fermé, ont vécu très longtemps. Et on a plein d'exemples tout le long, ce qui est très joli et très satisfaisant, je trouve. Tout le long de l'histoire de l'humanité, on a des exemples superbes comme ça de compassion. Les histoires d'arthropathie, souvent de spondylopathie, qui sont ankylosantes, vous savez, où l'os se développe et en l'occurrence l'os de l'humérus et de l'ulna se soude, c'est-à-dire que vous avez les deux bras comme ça, avec les deux bras comme ça, c'est pas facile de se nourrir. Or, il y a des exemples bien décrits de gens qui ont eu ce genre de soucis, ce genre de maladie, qui n'ont plus été capables de courber le bras, donc de se servir de leurs bras, et qui ont été nourris. C'est-à-dire que là aussi, on voit que le développement de l'os s'est fait de telle manière que les êtres en question ont tout à fait bien vécu. Et ceci est évidemment très joli. Donc cette âme, je la verrai riche de la facette religieuse, je dis bien. Je la verrai riche de la compassion. Je la verrai riche probablement de l'esprit, de la facette morale, de la facette éthique. Et de quelle manière elle se différencierait de la facette esprit. Je pense que l'esprit, je le chargerai plus volontiers des aspects cognitifs, intellectuels, techniques, esthétiques, et je ne verrai pas de bloc, le bloc âme et le bloc esprit, mais une porosité entre ces choses, entre ces éléments, c'est difficile de donner un nom à ces aspects-là, entre ces éléments qui se partagent aussi d'une certaine manière ce qu'on appelle le brou, le bon, le bien. C'est toujours intéressant ce trio très joli. Donc ma vision des choses est celle-là, et sur le terrain, encore une fois, quel est le marqueur? Et pour moi, le marqueur, c'est le premier outil taillé. Les chimpanzés, nos cousins très proches, utilisent des outils. Ils utilisent des outils de pierre, et ils utilisent des outils de pierre de manière directe, c'est-à-dire qu'ils prennent un caillou et ils s'en servent, premier degré. Et ils s'en servent depuis, c'est très intéressant, ils s'en servent depuis des milliers d'années. Il y a maintenant une archéologie chimpanzé, ce qui est drôle, c'est-à-dire qu'on a fait des forages au sein de certaines régions où vivent les chimpanzés. Je pense à la forêt de Thaï en Côte d'Ivoire, Et là, à une certaine profondeur, on trouve des noix qui ont été cassées par les chimpanzés, de même que les noix qu'ils cassent aujourd'hui. Et elles ont été cassées de la même manière, et les percuteurs qu'on trouve sont tout à fait comparables aux percuteurs d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'évolution sur un certain nombre de milliers d'années. Mais c'est amusant de penser à une archéologie chimpanzée, on ira peut-être plus loin un jour. Tandis que chez l'humain, c'est différent. Il y a d'abord une évolution, et ensuite il y a un outil au deuxième degré. Alors je m'explique, comme vous l'imaginez, le deuxième degré, c'est de prendre un caillou, c'est une première forme, de prendre un autre caillou, c'est une deuxième forme, et d'avoir l'idée, donc d'avoir l'idée dont on parlait, d'avoir l'idée d'avoir une idée d'avenir, de fonction pour faire quelque chose dans l'avenir, et donc de taper avec un caillou sur l'autre pour fabriquer une troisième forme. Et pour moi, cette troisième forme, c'est essentiel. Cette troisième forme, c'est le premier symbole. C'est le premier symbole. C'est la première création. C'est la première fois qu'un être vivant crée un objet à proprement parler. Et cette création, c'est le premier indice pour moi de ce sens religieux. Alors vous me direz, c'est un peu bizarre de passer d'une pierre taillée à la religion. Je ne crois pas. Je pense que véritablement le symbole est déjà là, et ce symbole ensuite n'ira qu'en se développant. Or, sachez que pour le moment, les plus anciens outils incontestables, c'est pas juste une pierre par-ci, une pierre par-là, c'est un très bel ensemble, un très bel outillage, a été découvert au Kenya, et ce bel ensemble a 3 300 000 ans. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, sur le plan strict de cette classification que nous avons fabriquée, 3 300 000 ans signifie qu'on est un petit peu avant l'homme, et que dans ce sens, ces premiers indices, ces premières informations apparaîtraient peut-être avec les derniers préhumains et les premiers humains. Et les derniers préhumains, je suis obligé de le dire, c'est Lucie. C'est effrayant. Je suis obligé de revenir à elle. Et je me rappelle bien sûr, je fais partie de l'Académie pontificale des sciences, comme mon ami Quéré. Et dans cette académie, il y a un chancelier qui est évêque, qui s'appelle Marcello Sanchez Sorondo. Et un jour, il m'avait dit, pensez-vous que Lucie a une âme ? Et de manière un petit peu désavouable, je lui avais dit, bien sûr. Et il se trouve qu'aujourd'hui, la science vient confirmer ma désinvolture. Donc, dans une certaine mesure, je suis assez content. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne suis pas sûr que c'est véritablement un sens. Mais, encore une fois, il se trouve qu'avant, on n'a pas ça, et qu'à partir de ce moment-là, on a ça. Et qu'à partir du moment où on a ça, on ne quitte plus ça. C'est-à-dire que les symboles sont permanents. Alors, j'en cite quelques-uns, mais vous les connaissez par cœur. Par exemple, ces pierres, bien sûr, vont s'améliorer. Elles vont se devenir de plus en plus efficaces. Ça, c'est sur le plan de la fonction. Mais aussi de plus en plus belles. Alors, peut-être qu'on se méprend aujourd'hui à voir de la beauté là où elle n'est pas. Mais on a l'impression que lorsque l'homme préhistorique a le choix entre un certain nombre de matériaux qui sont tous efficaces, il va choisir ceux qui sont, par exemple, les plus colorés, par exemple, les plus élégants. Il y a par exemple, des outils qui sont faits avec des pierres qui contiennent des fossiles. Eh bien, l'outil va être taillé de telle manière que le fossile va rester présent dans l'outil. C'est amusant d'avoir un biface avec un bout d'ammonite qui apparaît encore dans la pierre, etc. C'est-à-dire qu'on ne perd jamais l'homme de vue tout le long de cette longue histoire. Et puis, apparaît aussi l'usage de l'ocre. Autrement dit, les choses pour rien, si j'ose dire. Les choses pour rien. Et en fait, pour rien, ça veut dire pour toute la spiritualité, c'est considérable. On trouve des sols d'habitat très anciens, 700 000 ans, avec des zones de ces sols qui sont couverts d'ocre. L'ocre, c'est une pierre naturelle. C'est une pierre qui est souvent un peu brune, un peu jaune, un peu rouge. Et quand on broie cette pierre, évidemment, ça fait une poudre. Et cette poudre est tout à fait colorée. Et cette poudre, en l'occurrence, sur ces habitats, est répartie d'une certaine façon. Pas n'importe comment, c'est pas n'importe où. Elle est répartie d'une certaine façon, et s'il est réparti d'une certaine façon, ça correspond forcément à une sorte de sanctification d'un lieu. Aujourd'hui, certaines croyances, comme vous savez, certaines confessions, comme vous savez, viennent dans les maisons, lorsqu'on ouvre une maison, pour bénir ces maisons. Je suppose que les protestants le font aussi, je ne sais pas. Et donc, c'est un petit peu ça, en ce sens que la demeure est accompagnée d'une protection d'un autre monde, avec cet ocre qui n'est pas réparti n'importe comment. Et puis, bien sûr, les choses sont de plus en plus élaborées, le feu aussi, d'une certaine manière. On va découvrir comment fabriquer le feu. Ça, c'est autour aussi de 5 à 800 000 ans. Et ce feu, bien sûr, va permettre de cuire. Ce feu, bien sûr, va permettre de chauffer. Ce feu, bien sûr, va permettre d'éclairer. Mais ce feu va très vite aussi, peut-être tout de suite, devenir symbolique. Le feu, la flamme, la flamme représente aussi l'âme, dans une certaine représentation de symboles. Et puis, bien sûr, tout va se développer dans le sens qu'on a vu tout le long des 4 milliards d'années, dans le sens de la complication, mais aussi de l'amélioration. Et on va voir, par exemple, apparaître les sépultures. Et la première des sépultures, en fait, c'est une sorte de puits funéraire. C'est quand même 300 000 ans. C'est en Espagne. Et en Espagne, il y a un aven, c'est-à-dire un trou naturel, dans lequel les cadavres ont été jetés. Et les cadavres ont été jetés, et on pourrait avoir l'impression qu'ils ont été jetés. Il y a quand même 28 individus qu'ils ont été jetés pour s'en débarrasser. Or, parmi ces cadavres, il y a des pierres taillées de très très belle qualité, de très très belles couleurs, comme des sortes de dommages aux morts. Et puis ceci va s'élaborer, et on va passer aux sépultures que vous connaissez bien. Et les sépultures qui ont, elles, les premières, ont autour de 130-140 000 ans. Et là, il ne fait plus de doute, enfin pour moi, il ne faisait pas de doute auparavant non plus, qu'il s'agit d'un rapport avec le ciel, puisque les gens sont enterrés de manière extrêmement précise, que les gens sont enterrés avec des objets qu'ils peuvent emporter, enfin qu'ils ont sûrement avec eux pour les emporter dans un autre monde. Et ces objets sont soit des objets précieux, soit des objets de nourriture. Il faut aussi un petit peu de nourriture pour passer un certain nombre d'étapes avant d'atteindre les cieux, ou quelque chose de ce genre. Et encore une fois, la compassion apparaît merveilleusement. Moi, je salue l'humanité. Je suis très proche, si on peut dire, des humains. J'aime beaucoup les gens. J'aime beaucoup l'humanité. Même si elle est prédatrice, j'aime beaucoup l'humanité. Et donc, ce que je constate là, c'est que parmi les sépultures, quand on ouvre ces sépultures, on dit à partir de ce moment-là, l'homme enterre ses morts. C'est pas vrai. L'homme enterre certains de ses morts, mais pas tous. Et certains de ses morts, à 25%, ce sont des êtres blessés, des êtres malades, des êtres handicapés, c'est-à-dire des êtres qui ont souffert dans leur existence et qui ont été sélectionnés pour être spécialement inhumés. Je trouve que c'est très, très beau et très inattendu, si je puis dire, dans le langage en tout cas contemporain, la manière de considérer l'homme aujourd'hui. Et puis, les rupestres, enfin, on arrive bien sûr au fait que non seulement on sait, non seulement on sait qu'on sait, mais on le fait savoir, et cette fois sur des parois nombreuses, mais aussi sur des objets, on voit des inscriptions, c'est une écriture, mais une écriture qui est l'écriture d'un mythe, l'écriture d'un mythe d'origine, l'écriture d'un mythe religieux par excellence, et ces grottes qui nous sont chères, ce sont bien sûr des sanctuaires. Ce sont des sanctuaires. Les plus anciennes peintures ont autour de 50 000 ans. Et ces plus anciennes peintures, contrairement à ce que l'on pense, ne sont pas Chauvet et Lascaux qui sont si belles chez nous, mais sont indonésiennes. Ceci dit, Chauvet a quand même 36 ou 37 000 ans et Lascaux une vingtaine de milliers d'années. Et puis de ces périodes qui sont probablement animistes, à l'époque des peintures rupestres, on trouve des statuettes qui sont en partie animales, en partie humaines, et les représentations sont aussi de cette façon. Et on passe bien sûr aux grandes religions polythéistes d'abord, et puis monothéistes comme celle d'aujourd'hui. Et voilà la fin pour le moment, qui bien sûr va se poursuivre, de l'histoire. Alors je voudrais terminer d'abord, je remercie bien sûr encore une fois l'accueil qui m'est fait aujourd'hui. Je voudrais terminer par une chose bien, bien précise. Il se trouve que certaines personnes ici, dont la pasteur, ont eu le malheur de lire Le Monde. Et dans Le Monde, il n'y a pas longtemps, un très bon journaliste d'ailleurs est venu me voir, m'a demandé une interview que j'ai volontiers accordée, très volontiers accordée, et où je me suis exprimé à l'habitude, c'est-à-dire de manière très libre. Et à l'habitude aussi, je n'ai pas souhaité relire le papier, parce que je fais confiance aux gens et confiance aux journalistes. Et ce journaliste ne m'a pas trahi, mais il a été un petit peu fort en disant, en reproduisant cette phrase qui en est faite de moi, je ne suis pas religieux, d'abord, et je m'en fous. C'est quand même violent. Juste avant de venir ici, c'est un petit peu désagréable. Alors je voudrais m'expliquer. Je suis sûr, comme je viens de le dire à l'instant, que le premier homme est religieux. Et je suis sûr par suite que tous les humains sont religieux. Tous les humains sont religieux, même s'ils s'en défendent. Ils ont une religion d'une manière ou d'une autre, ils ont une croyance d'une manière ou d'une autre. Et ce que je voulais dire, c'est que je ne pratiquais aucune religion c'est ainsi, mais il se trouve que, aimant l'humanité, je suis forcément respectueux de toutes les croyances. Toutes les croyances passées, toutes les croyances d'avant, toutes les croyances d'aujourd'hui, toutes les croyances d'hier, toutes les croyances d'ici. Et donc j'ai de la peine à adhérer, à pratiquer une seule de ces religions. Mais bien sûr que je suis religieux comme tout le monde et que j'ai ce sens tout à fait inhérent à ma petite tête, à mon esprit. Et d'autre part, quand je disais que je m'en foutais, c'est ce qui a été écrit sur le journal, c'est effrayant. D'autant plus que ce n'est pas mon langage habituel. Ça signifie, c'est prétentieux ce que je vais vous dire, ça signifie que mes rapports avec le ciel sont parfaits. Je n'ai pas de souci du tout de ce côté-là. Je suis dans une paix que vous imaginez mal, enfin peut-être très bien. Et je le dis souvent de manière peut-être excessive, peut-être prétentieuse, peut-être désagréable, mais c'est vrai. Dieu est un ami. J'ai des rapports parfaits avec Dieu. On s'entend très très bien. Et donc, mes rapports avec le ciel, que le ciel m'entende, mais il m'entend depuis toujours, sont tout à fait en ordre. Donc c'est la région pour, c'est la raison pour laquelle je m'en fiche, bien sûr, puisque tout va bien, merci beaucoup. Je n'ai rien à demander au ciel. Le ciel est tout à fait agréable avec moi et j'espère l'être avec lui, très modestement, de mon petit niveau de scientifique. Voilà, merci beaucoup.